Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, un petit air de fraîcheur avec ma femme d'aujourd'hui, une toute jeune femme pleine de bonnes idées, pleine de belles pensées pour sa génération, mais pas seulement. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Anbar El-Moukri, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Anbar?
Merci à vous. Écoute, ça va très bien. Je suis bien installée. Je suis à Paris en ce moment. Et beaucoup de travail, mais ça va.
À Paris pour le boulot, justement?
À Paris, depuis un an et quelques, je fais des petits allers-retours au Maroc. Et oui, je travaille ici, je travaille aussi à distance. Et enfin, j'ai plusieurs activités, mais on pourra en parler.
Absolument. Alors justement, en parlant de voyage, vous avez eu une vie riche en mouvement et en déplacement. C'est bien ça?
Oui. Alors j'ai grandi au Maroc, à Rabat. Ensuite, après mon bac, je suis allée à Montréal pour faire des études de sciences politiques. Ensuite, j'ai travaillé entre Montréal et Toronto en freelance, en production d'événements, donc pour plusieurs entités différentes. J'ai aussi fait quelques mois à Amsterdam, où j'ai travaillé pour Universal Music. J'ai fait quelques mois à Berlin. Je suis aussi rentrée au Maroc, entre Casablanca et Marrakech. Et là, je suis à Paris. Donc, oui, beaucoup de mouvements.
Beaucoup de mouvements. Mais alors, vous avez beaucoup travaillé dans tout ce qui est culturel, événementiel. Et pourtant, vous avez fait des études en sciences politiques. Avec une spécialité, si je ne me trompe pas, du Moyen-Orient.
Exactement. Oui, alors le sujet de mes études, en gros, j'ai commencé en business. Parce que c'était un peu la voie que tout le monde faisait après le bac sans vraiment savoir ce que ça donnait. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est apprendre de nouvelles choses sur le monde en général et comment ça fonctionne. Et j'aimais bien écrire aussi, plus que faire des maths. Donc, j'ai étudié en sciences politiques. Et j'ai beaucoup aimé ça. Oui, j'ai fait une concentration en études Moyen-Orient. Et j'ai beaucoup aimé ça, sauf que pour mon travail, ce qui m'attirait le plus, c'est justement le monde culturel. Donc pendant mes études, j'ai commencé à faire du bénévolat dans des festivals de musique à Montréal. Et là, j'ai découvert le monde de la production d'événements, le monde des créatifs en général. Et c'est ce qui m'a vraiment fait vibrer. Et moi, quand quelque chose me fait vibrer, j'y vais à fond. Donc voilà.
Alors, moi, il y a un point qui m'interpelle dans ce parcours, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore 30 ans. Et en général, en fait, c'était plutôt notre génération à nous. Quand on avait le bac, on allait vers les cursus classiques parce que voilà tout ce qui est culturel, artistique, etc. Pour certaines femmes que j'ai eu l'occasion d'interviewer, c'était pas vraiment reconnu par la société, pas reconnu par la femme, par les parents, et donc ce n'est qu'après qu'elles allaient vers des choix de vie et de carrière plus alignés avec leurs envies intérieures. Vous, Anbar, vous n'avez pas encore 30 ans et vous avez vécu un peu le même processus que l'ancienne génération. Vous voyez où je veux en venir?
Ouais. Non, je vois totalement. Je pense que, oui, alors c'est une question générationnelle, mais même pour ma génération, les métiers un peu plus classiques étaient plus, on va dire, prisés ou avaient plus de valeur aux yeux de la famille ou de la société, mais moi, je pense que j'ai jamais voulu sacrifier ce que je ressentais, j'ai jamais voulu sacrifier ma rahl bel, j'aime bien être saine d'esprit, donc quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai tendance à juste lâcher et aller vers quelque chose qui me plaît mieux, donc voilà, et j'ai jamais vraiment eu de travail pendant très longtemps, j'ai jamais eu de CDI, j'ai toujours été en freelance.
Encore maintenant?
Oui, encore maintenant.
Alors justement, quand vous entendez cette fameuse injonction que les jeunes doivent savoir très tôt ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire très tôt, c'est-à-dire dès 18 ans, 19 ans, 20 ans, est-ce que vous pensez que c'est possible?
Pas du tout.
Yeah, on est d'accord.
On est d'accord. Ouais. Moi, ça me révolte un peu.
Ouais, moi aussi.
j'ai deux petites sœurs qui ont 17 et 19. Et j'arrête pas de leur dire, vous avez le droit de changer d'avis. Mmh. C'est OK de changer d'avis. C'est OK de vouloir faire ce qu'on veut. C'est OK d'arriver. Enfin, moi, je sais que peut-être à 35 ans, je vais me réveiller et me dire, je préfère faire ça, je préfère faire autre chose. Et j'ai la chance de pouvoir avoir cette liberté et de me donner les moyens aussi de pouvoir le faire. C'est pas facile parce que il n'y a pas de structure, il n'y a pas vraiment de stabilité quand on change souvent de voie ou de travail. Mais dire aux jeunes qu'il faut qu'ils choisissent quoi faire à 18 ans, c'est vraiment pas juste. C'est vraiment pas juste de mettre autant de poids sur quelqu'un qui est encore en train de se développer et qui n'a pas vu tout ce qu'il y a pour faire un choix. Et même faire un choix, je trouve ça un peu, comment dire, c'est réducteur en fait. Mm. Et quand on a la chance de pouvoir changer ou de pouvoir aller vers ce qu'on aime, je pense que c'est ce qu'il faut faire, ouais.
Alors quand vous dites « j'ai cette chance d'avoir cette liberté », c'est une liberté avant tout intellectuelle? Ou c'est aussi un confort financier qui permet de bouger?
Je pense que c'est un confort financier. Comme vous dites, j'ai la chance d'avoir une famille qui est derrière moi. Mmh. Mes études, au début, on me les a payées. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance. Après, j'ai vite travaillé. Je me suis vite... J'ai vite été indépendante de tout ça parce que c'est pas top d'être liée à ses parents toute sa vie. Mais le début, en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir une base solide pour faire ces choix-là. Et je pense que tout le monde n'a pas cette chance et j'en suis consciente totalement. Mmh.
Je pense que vous venez d'une lignée aussi où l'art et la culture sont très présents.
Oui, en effet. Ma mère est artiste peintre, mais elle est aussi écrivaine et psychologue. Et mon père a toujours été à fond dans la musique. Ils jouent plusieurs instruments. Ils sont tous les deux... j'ai baigné dans l'art assez rapidement. Donc ça a toujours fait partie de qui je suis. Et je pense que l'art, c'est un peu ce qui nous permet en général en tant que société de voir la magie dans le monde et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et une de mes priorités, vraiment, c'est la culture et l'art pour sure, oui.
Alors justement, quand vous vous exprimez artistiquement, lorsque vous peignez, lorsque vous écrivez, qu'est-ce que vous accouchez de quoi exactement, Anbar?
Alors, moi, mes formats, c'est oui, plus la peinture et la céramique. J'écris très mal quand j'essaie de m'exprimer, mais j'écris mieux quand j'essaie d'expliquer quelque chose. Mais je pense qu'en général, c'est une façon pour moi de make sense ou d'exprimer ce qui m'arrive à un moment T. D'expliquer le monde, toutes ces petites parties, et vraiment de mon point de vue, je ne prétends pas expliquer le monde pour tout le monde, mais c'est un truc qui doit sortir et que je comprends pas ou qui me trotte dans l'esprit, et ça sort d'une façon ou d'une autre, plus en peinture et en céramique, ouais.
Alors justement, vivre dans une famille recomposée, c'est l'un des messages que vous pouvez traduire dans votre art?
Je pense, je suis pas vraiment sûre. Oui, non, moi, mes parents ont divorcé très tôt. J'avais 3-4 ans. Donc, j'ai toujours grandi dans ça. Je me suis pas, je m'identifie pas de ce côté-là, je pense. Après, peut-être que ça sort, de façon inconsciente. Mais c'est pas quelque chose que j'essaye d'expliquer, je pense, à mon niveau. Moi, c'est plus ma génération que je trouve très particulière. On se retrouve à un moment du monde, très particulier, et je pense que c'est plus ça qui m'anime versus ma situation familiale.
Dans l'absolu, mm-hmm. justement, étant donné qu'on est une communauté de femmes et on apprend mm-hmm. des expériences des unes et des autres, mais dans l'absolu, soit les femmes qui actuellement sont en plein divorce, qui ont des enfants, soit les jeunes femmes qui nous écoutent, dont les parents ont divorcé, sont en plein divorce aussi, comment prendre soin de soi quand ceux qui sont supposés nous protéger vont mal?
Je pense qu'en tant qu'enfant, c'est une question assez compliquée. Je pense qu'il y a un moment où on devient adulte et on comprend des choses. Et c'est normal de ne pas tout comprendre d'un coup. Et je pense que demander à des enfants de comprendre des situations de couple assez tôt, quand eux-mêmes ils n'ont rien vécu de tel, c'est assez, assez compliqué. Mais je pense qu'à un moment, on devient adulte. Et en face, on a des humains. C'est pas nos parents, c'est pas des héros. Enfin, on a tendance à idéaliser nos parents très longtemps, et c'est ce qui est très bien. Mais à un moment, on a en face de nous des humains, et on se dit, OK, ils ont une vie, eux aussi, qui n'a rien à voir avec moi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, ça a été plus ou moins bien géré. Je sais qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées. Mais je pense qu'il y a une empathie qui est importante sans non plus s'oublier dans ça et s'oublier soi-même.
Ça, c'est très bien dit, c'est-à-dire essayer de voir ses parents pas comme des héros, mais comme des êtres humains qui ont leurs failles aussi. Et dire peut-être aux femmes qui nous écoutent maintenant de ne pas culpabiliser. C'est important de ne pas culpabiliser.
Bien sûr, bien sûr. Moi, en général, je trouve que la culpabilité, ça ronge. Et surtout la culpabilité qui est infligée à soi-même, c'est la pire chose. Je pense qu'il y a des façons assez connues de bien gérer les choses avec ses enfants. Et si on fait de son mieux de ce côté-là, il ne faut absolument pas se sentir coupable, ni d'être seule, entre guillemets, être vue comme une femme célibataire au Maroc. Ça aussi, c'est des trucs que j'en peux plus. Vraiment.
Ah oui C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un bas, tu te maries quand?
Voilà, des phrases comme ça.
Ah oui?
Comment ça?
Ça se dit encore, ça?
Ça se dit encore, figure-toi. Ouais, à des niveaux plus ou moins intenses. Mais oui, on a encore beaucoup de ça.
C'est vrai.
Et franchement, mais au lieu de demander à la personne...
Ouais. Pardon, mais qui vous le dit? Est-ce que c'est l'ancienne génération? C'est les copines?
Oui.
C'est...
Plus les anciennes générations, oui. Pas ma génération, en tout cas.
Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'une jeune femme de 28 ans, 29 ans, doit déjà avoir trouvé chaussure à son pied?
Ben, je pense qu'on est des fois encore dans le mindset que le mariage ou le couple, c'est une finalité en soi et que c'est le but ultime de toute femme ou j'en sais rien. Alors que non, enfin, il y a tellement de choses à réaliser. En parallèle, ça peut être fait. Je ne dis pas qu'il y a un après l'autre, mais je veux dire, c'est d'abord demander à la personne si elle est heureuse, si elle est épanouie, si elle a tout ce qu'elle faut pour réussir avant de demander si elle s'est mariée. Enfin,
Ouais. Alors justement, par rapport à ça, vos priorités dans la vie, Amber, vos priorités de femme de 29 ans aujourd'hui?
J'ai 27 ans.
Plus. Ouais, j'ai mal fait mon calcul, alors.
Non, en 95. Moi, mes priorités, c'est très actuel. Je vais parler, moi, en tant que personne là, tout de suite. C'est j'ai envie de créer des projets au Maroc. Je suis restée 3 ans au Maroc après mes études et mon travail de 2018 à 2021. C'est là où j'ai vraiment pu exercer... et développer ma carrière d'artiste. Et là, j'ai envie de revenir et de créer des communautés d'artistes plutôt que de rester seule et de créer des synergies entre les artistes pour qu'ils puissent vivre de leur art, pour qu'ils puissent s'exprimer dans les meilleures conditions possibles. Je pense que ma priorité, ça serait ça. D'ailleurs, je reviens dans quelques semaines de façon un peu plus permanente, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est être une actrice du monde de l'art au Maroc, consciente de ce qui s'y passe et de faire ce que je peux pour faire avancer les choses.
Alors, justement, pour permettre aux artistes de pouvoir en vivre, est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion, Amber?
Non. Moi, pour l'instant, j'ai eu quelques années où j'ai pu le faire. Là, je suis en freelance pour un festival aux États-Unis. Je travaille à distance. 20 heures par semaine et puis le reste du temps je travaille sur mes propres projets, mais je suis quand même obligée d'avoir un travail à côté.
C'est-à-dire ce que les grands appellent un vrai boulot?
C'est pas vraiment un vrai boulot. C'est pas vrai, enfin, dans le sens où je suis en freelance, je travaille à distance, donc je suis à la maison, j'ai la chance de ne pas aller à un bureau. C'est pas trop structuré de ce côté-là. C'est un festival d'art et de musique, donc je suis quand même dans la culture. Je suis quand même baignée dans des choses qui me plaisent et je continue d'apprendre. Donc ouais, moi, les boulots de bureau ne me conviennent pas vraiment. J'ai essayé de trouver quelque chose qui est un juste milieu.
Alors, vos parents, est-ce qu'ils voudraient vous voir, comme on dit, chez nous, installés?
Je pense qu'ils ont abandonné l'idée. Je pense que c'est possible. Moi, j'ai envie de reprendre ma base au Maroc, mais je ne le fais pas forcément pour ce que mes parents pensent. Je le fais pour ce que moi, je pense et ce que j'ai envie de faire dans ma vie et pour mon pays. Je suis sûre qu'ils sont très contents d'apprendre que je reviens dans quelques temps. Mais j'aimerais aussi pouvoir voyager quand je veux. Je le vois pas comme un retour fermé, d'apprendre à droite à gauche et de revenir créer des choses au Maroc.
Alors, vous avez dit à l'instant une chose qui est très belle, c'est faire pour mon pays. Et ça nous connecte justement à ce besoin de servir d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que finalement, toutes les générations se retrouvent autour de ce point important qui est être au service de son pays, créer une valeur ajoutée et créer une chaîne de solidarité mentale ou physique.
Oui, c'est super important pour moi et c'est vrai que c'est quelque chose qui lie beaucoup de générations et beaucoup de personnes, même si leur parcours peut être différent. Moi, il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont le même discours et j'en suis hyper fière et contente. Mais je pense que oui, le mot que vous avez dit, servir, je trouve que c'est important, ajouter quelque chose et faire avancer notre pays. Moi, c'est quelque chose qui m'anime. Ouais, c'est clair.
Ça veut dire que même si vous n'êtes pas là physiquement, même si vous n'êtes pas au Maroc physiquement, il est toujours dans votre tête, en fait. L'action.
Constamment,
ouais.
Ouais, constamment. Même si je fais autre chose et que je suis ailleurs, physiquement, c'est toujours la chose à laquelle je pense. Là, en ce moment même, je me trouve à Paris, mais je travaille quand même sur un projet au Maroc. Donc oui, c'est toujours quelque chose, c'est un fil directeur de tout ce que j'essaie de faire, ouais.
Il y a parfois des préjugés par rapport à la nouvelle génération qui sont plutôt centrés sur eux-mêmes, que ce qui compte avant tout pour eux, c'est leur propre réussite et non pas ce qu'ils peuvent donner ou laisser. Mais à travers ce que vous nous dites là, non, c'est pas vrai. C'est au contraire, ouais. Cette génération est très éveillée aussi et très animée par la patrie.
Oui. Et je pense que la réussite personnelle
n'est pas assez belle, en fait.
Je veux dire, ça peut être le cas pour certaines personnes, et je pense qu'il n'y a pas de souci. Et je pense que la réussite personnelle peut être aussi liée à ajouter quelque chose à notre pays. C'est pas mutually exclusive. On peut faire les deux en même temps. Et je pense qu'en effet, c'est critique des nouvelles générations. Je pense que ça date de la nuit des temps. On a toujours tendance à voir les jeunes comme quelque chose d'alien. Mais je pense qu'il faut leur faire confiance. Je pense que là aussi, il faut de l'empathie, essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire et donner des espaces justement pour que les gens puissent le faire de façon libre faire des choses nouvelles et faire avancer les choses pour le Maroc en général.
Anne Balmoukri, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'est un plaisir d'échanger.
C'était un plaisir pour moi aussi, vraiment. Merci beaucoup.
Merci Anne Bal. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.